ci fermavo nel jazz, non siamo in salita, non vi puro di ferro, la vita. So triste, la vita. Serait moche, alors. Alors, je fume, je bois et j'écris. Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas d'une sorte de cerveau disponible de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
C'est toujours Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 Pégase, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débat du jour qui commence. C'est l'émission de rentrée, ça y est, on se retrouve après la pause estivale. Une rentrée, oh, c'est jamais terrible, mais bon, une rentrée littéraire avec des choses intéressantes, c'est déjà un petit peu mieux à vivre. Et au programme de cette émission, deux auteurs qu'on aime particulièrement et qu'on est content de retrouver. Il s'agit d'Agnès de Sarthe qui nous revient avec un livre absolument magnifique qui s'appelle « L'oreille absolue » et qui est paru aux éditions de l'Olivier. Et puis David Thomas, qu'on a reçu de nombreuses reprises également dans cette émission pour des recueils de nouvelles, pour un roman aussi qu'il avait fait. Et là, on le retrouve pour un récit qui est paru également aux éditions de l'Olivier, qui s'appelle « Un frère ». Et qui est un livre absolument poignant, qui en même temps dit beaucoup de choses sur la maladie mentale, mais aussi sur les processus d'écriture. Voilà pour le programme du jour. Une belle rentrée. On retrouve tout de suite Agnès de Sarthe pour L'oreille absolue, paru aux éditions de l'Olivier. C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est l'émission Idéaux et débats, et c'est toujours une joie de retrouver Agnès de Sarthe, et là c'est un nouveau livre qui s'appelle L'oreille absolue, qui est paru aux éditions de l'Olivier, et moi j'ai beaucoup été touchée par ce livre. J'avoue que vous m'avez... Alors c'est terrible, mais d'un livre sur l'autre, à chaque fois vous m'étonnez, et c'est quand même fort, parce que ça fait... un petit moment qu'on se connaît et qu'on se retrouve de livre en livre, et avoir la possibilité de dire à chaque nouveau livre « Vous m'avez étonné », je trouve ça fantastique, quoi. C'est...
J'espère, enfin ça me fait très plaisir ce que vous me dites, mais parfois je me demande si c'est pas un peu déroutant, si on se dit pas mais qui c'est cette personne qui à chaque fois fait un livre différent. Mais c'est vrai que j'aime pas refaire ce que j'ai déjà fait, et que comme le livre me tombe dessus toujours par surprise et sans que j'ai choisi le thème, et sans que j'ai rien choisi en fait. Mm-hmm. Moi-même, je suis surprise. Et je vois bien le moment où je pourrais, quand un livre m'arrive dessus, me fonce dessus, lui dire écoute, non, j'ai pas envie d'écrire, je ne sais pas le faire, j'ai déjà très bien réussi un autre, donc je vais faire comme j'ai fait la dernière fois, c'était extra, mais c'est interdit, je ne peux pas résister au projet qui vient me percuter. Donc je suis la première surprise.
Et donc, en tant que lectrice aussi. Alors, quand même, il y a des points communs, parce qu'il y a votre sensibilité, il y a votre écriture, il y a ces personnages qu'on retrouve avec leur écoute. Donc ça, c'est des traits récurrents dans les livres d'Agnès de Sarthe. Mais celui-là, je le trouve particulier. Alors, on va peut-être expliquer aussi comment l'oreille absolue est née. Et puis après, on parlera de ce qu'il y a dedans.
Alors, c'est un processus assez particulier parce que au départ, c'est parti d'une commande d'écriture qui a été passée par la scène nationale de Dunkerque, le bateau feu, et pour un format qui s'appelle Histoire en série. Donc au départ, c'était écrire des histoires qui allaient être lues à voix haute. Un principe qui, moi, me plaisait beaucoup, parce que j'adore lire à voix haute et j'adore qu'on me lise aussi à voix haute. Et donc quand cette proposition d'écriture m'a été faite, j'ai tout de suite pensé comme cadre à l'harmonie municipale. Alors peut-être parce que pour moi la lecture à voix haute ça s'apparente beaucoup à la musique, parce que ce que la voix permet, comment elle ralentit, elle accélère, elle entraîne, ça peut être perçu comme un moment musical. Et donc dans un premier temps ça a pris cette forme là d'histoire destinée à être lue, et ensuite quand ça s'est assez vite transformé, en tout cas dans ma tête, en roman, parce que au lieu qu'on passe d'une histoire à l'autre en abandonnant les personnages comme on le fait dans des nouvelles par exemple, je me suis assez vite rendu compte que tous les personnages que j'abordais faisaient partie du même monde et en fait qu'ils étaient tous liés par la musique justement, puisqu'ils sont, ils se retrouvent tous. Alors, soit ils jouent il y a une harmonie municipale dans le village, soit ils jouent au sein de cette harmonie, soit ils sont publics de cette harmonie, soit ils sont conjoints d'eux ou parents d'un musicien. Mais en tout cas, il y a un concert, il y a une date à laquelle ils vont tous se retrouver. Et donc, c'est ça qui lie tous les personnages. Et après, ça fonctionne. On va avoir un portrait global de cette harmonie qui est comme un organisme, mais à travers des duos, puisque le récit il est constitué, on pourrait dire qu'il est constitué d'une suite de duos jusqu'au moment où c'est pas un duo, mais donc il y a un premier duo avec un petit garçon et un homme plus âgé, un homme accompli, et chacun à sa façon a décidé de disparaître.
Mais c'est un travail de compositeur que vous avez fait, parce que c'est comme une construction musicale, oui. Avec effectivement ces duos, avec ces refrains, ces phrases. Oui. Qui reviennent, ces paragraphes récurrents que, oui, vous reprenez.
Il y a un thème avec une variation sur le, voilà, thème. Et il y a aussi une façon de distribuer le discours comme on le fait en musique, c'est-à-dire d'avoir le thème qui est pris en charge par tel pupitre, puis pris en charge par tel autre. Mais pendant qu'il est pris en charge par tel pupitre, les autres continuent de jouer, oui, à l'arrière, pour soutenir, pour mettre en valeur. Donc ça, oui, c'est composé complètement, c'est tout à fait mimétique d'un morceau de musique. Donc ça fonctionne par duo, et à chaque fois le duo illustre une certaine question, c'est-à-dire à la fois sur le semblable et le dissemblable, sur ce qui est sur une certaine forme de désaccord aussi, c'est-à-dire des personnages qui sont ensemble mais désaccordés, ou qui sont complémentaires mais trop différents, ou qui Donc là aussi, ça va être la question de savoir comment jouer ensemble. Puisque c'est la question qu'on peut se poser quand on fait partie d'un ensemble musical, c'est il ne faut pas que cela joue trop fort pour qu'on entende ceci. Il faut aussi que si cela ralentit, ça va être embêtant pour ceux-là qui ne vont pas avoir assez de souffle pour finir la fin. Donc c'est la question de comment on fait pour coexister, pour se supporter, au sens se soutenir, mais aussi endurer la présence de l'autre. Toutes ces questions qui se posent de manière pas dramatique, de manière très pragmatique au sein d'un orchestre, elles se posent de manière plus dramatique au sein d'un couple ou au sein d'une fratrie ou chez des amis, entre deux amis. Donc c'est comme si on déclinait cette question de comment faire pour jouer ensemble dans des situations de la vie courante.
Oui. Et ceci avec une dimension temporelle aussi, c'est-à-dire que oui, l'ACMÉ, ça va être ce concert annuel où l'harmonie va se retrouver pour jouer, mais en même temps, ça repart aussi dans tous les concerts précédents, dans toutes les histoires individuelles. Et donc, on a ce noyau qui se développe, qui s'étend, qui se ramifie. Et c'est ça aussi qui m'a touchée, c'est ce cœur de sentiments et de souvenirs, en fait, qui s'entremêlent.
Oui, parce qu'on n'est jamais... Ça, c'est une chose que j'avais déjà explorée dans l'Éternel fiancé. C'est le rapport entre la musique et le temps. C'est-à-dire que c'est très... c'est l'insaisissable de la musique qui est tout le temps déjà terminé. À chaque instant, on n'a déjà plus ce qui... On ne peut pas arrêter la musique. Même si on dit on va arrêter l'accord, on va écouter l'accord, ben il s'évanouit, il finit par s'évanouir. Et la littérature peut défier, pas complètement, mais un petit peu le temps. En revenant en arrière, en dilatant certaines périodes et en raccourcissant d'autres. Donc on peut aller très loin dans le passé en une phrase. On peut s'attarder sur quelques instants, sur une dizaine de pages. Et donc cette façon de ralentir ou d'accélérer et la capacité aussi qu'on peut avoir de faire jouer la narration, pas seulement sur un axe, du temps qui irait, qui se déroulerait du passé vers le futur, mais un axe qui peut soit aller vers la profondeur de l'instant, soit retourner carrément en arrière. Et ça, c'est vrai que c'est un grand plaisir que procure l'écriture, donc pourquoi ne pas le faire. Et aussi, il y a, ça on le sent aussi dans la musique, c'est avec tous les sens ont cette capacité-là, mais l'oreille, quand on entend une certaine musique qui a été la musique d'une certaine émotion ou d'une certaine époque, d'où le succès par exemple de tas de chansons populaires qui en tant que chansons sont peut-être pas si extraordinaires, mais parce que c'est la chanson qu'on écoutait quand on a dansé avec Bidule ou truc, ou que machin nous a regardé, enfin bon, elles prennent une sorte de dimension extraordinaire et on est de nouveau en contact avec le souvenir. Donc la musique aussi nous fait voyager dans le temps. Et donc travailler avec des personnages qui sont tous musiciens, ça aussi, ça fait qu'on a envie de cultiver cette sensation, le voyage dans le temps que procure la musique aussi, soit qu'on joue des choses qui... Des morceaux qui datent de notre jeunesse, soit qu'on joue carrément des auteurs, des compositeurs morts depuis très longtemps, mais qui revivent juste l'espace d'un instant. Donc c'est vrai que ça donne envie de se promener. Ouais.
Fröhliche Hochzeit macht.
Préciser aussi Agnès de Sarthe, c'est que dans L'oreille absolue, paru aux éditions de l'Olivier, l'histoire ne commence pas n'importe quand. Et quand on évoquait cette dimension temporelle, elle va débuter l'histoire à un moment où, d'une certaine manière, le temps est suspendu. Oui. Parce que c'est juste après le Covid, enfin juste après une épidémie, et ça commence par un conseil municipal où le maire dit « le cimetière est plein ». On n'a plus de place pour nos morts et c'est donc il faut arrêter de mourir.
Ouais, c'est d'une certaine manière. En fait, c'est un problème très pragmatique qui est réel. Hein. Ça arrive dans les cimetières et donc le maire dit bon, à notre prochain mort on est marron, on pourra plus le mettre nulle part et c'est comme si jetait un sort à son propre village parce qu'il se trouve que pendant effectivement une certaine période les gens arrêtent de mourir. Alors bon, ils arrêtent de mourir selon qui regarde et comment on regarde.
C'est quoi la phrase ? C'était un hiver lumineux et sec où plus rien ne semblait vouloir mourir.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors la phrase après, c'est cette phrase qui revient. Il y a une série comme ça de notations qui se promènent, qui font comme un refrain, qui sont parfois très 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 légèrement modifiées d'un moment du livre à l'autre, et à laquelle s'accroche une collection de morts ratées, on pourrait dire. Donc chaque tout, je sais pas, toutes les 20 pages, on a on s'arrête pour dire bon bah alors voilà telle personne.
A vécu telle chose,
il y a eu tel accident, mais
il n'est pas mort.
Voilà. Et donc il y a des collections comme ça de c'est comme des faits divers à l'envers.
Ouais.
Parce que ça aussi, il y a un moment des notations sur les faits divers et l'espèce de fascination que les gens ont pour les faits divers et à quel point ça, comme ça renforce de les raconter. Plus ils sont épouvantables, plus ils sont, je sais pas, plus on s'en sort peut-être renforcé, comme si on disait, bah, j'ai échappé à ça. Et alors, on en rajoute avec, et alors, il a perdu son bras, et puis son pied, et puis enfin, j'en sais rien. Et là, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que c'est comme si j'ouvrais à chaque fois le journal à l'envers et qu'il y avait tout pour que ce soit catastrophique, mais que, oh non, non, finalement, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça a pas, la mort n'a pas réussi son coup. Et donc voilà, on dirait, ça pourrait faire penser à un conte, mais ça n'est pas du tout. Enfin, mais on est dans un univers extrêmement réaliste, tout est pragmatique, toutes les morts évitées le sont pour une bonne raison, il y a à chaque fois une explication
rationnelle,
tout est rationnel, et en fait ça part juste de vraiment quelque chose de très rationnel, c'est qu'il n'y a plus de place dans le cimetière, et voilà.
Et donc il y a effectivement ces refrains qui reviennent, après ces galeries de non-morts, et on attaque le duo.
Voilà.
Et chaque duo, alors... C'est fantastique parce que il y en a qu'on préfère à d'autres, évidemment, mais on n'a pas envie de les laisser, mais on les retrouve en fait, et c'est ça qui est bien. Et ça commence effectivement par la question de l'invisibilité au travers de ces deux personnages, ce petit garçon Mathis qui veut disparaître et qui parie 5 euros qu'il va pouvoir disparaître et qui va se retrouver dans la situation de rencontrer quelqu'un qui est sur le point de lui aussi de mourir.
Oui, qui a décidé aussi de disparaître. Ouais. Ils ont tous les deux décidé la même chose, mais
pas de la même façon.
Ils n'envisagent pas d'employer les mêmes moyens. Ils n'ont déjà pas le même âge, donc ça change beaucoup la donne. Et il se trouve que non seulement ils se rencontrent, parce que pour décider de disparaître, qu'on soit un petit garçon et qu'on veuille se cacher, ou qu'on soit un adulte et qu'on envisage de mettre fin à ses jours, il faut le faire dans un endroit à l'écart. Voilà. Un peu à l'écart, donc c'est pas complètement un hasard qui les réunit. Mais la chose qui va les réunir encore plus, c'est le fait qu'ils ont, ça n'est pas dit, mais c'est probable, tous les deux l'oreille absolue.
Oui. D'où le titre.
Et voilà. Et puisque le petit garçon, ce petit garçon un peu hyperactif, comme on dit aujourd'hui, intenable. Très dissipé, qui met ses... Alors, quand il va au concert de l'harmonie, il met ses mains sur ses oreilles parce que c'est insupportable. Trop. Et sa mère lui dit la musique, c'est affreux, mais il faut se forcer. Je ne sais plus ce qu'elle lui dit, une parole un peu bizarre. Mais en fait, elle croit que c'est parce qu'il n'aime pas. Mais en fait, ce n'est pas qu'il n'aime pas, c'est qu'il... C'est faux. Comme c'est un peu faux parfois, c'est insupportable pour lui. Et en fait, il va rencontrer par hasard ce monsieur qui a décidé d'en finir. Et ils vont se reconnaître l'un dans l'autre. Ils sont comme en miroir avec cette espèce de don qui leur sert pas à grand chose, qui fonctionne plutôt comme un handicap pour l'un comme pour l'autre, parce que ça leur a vraiment pas rendu que des services dans l'existence, comme on le découvre par la suite. Mais
pour Raoul, qui est mon personnage préféré.
Je l'aime beaucoup. Vous voyez qu'il revient tout le temps.
Oui.
On croit qu'on l'abandonne, mais en fait tous les personnages viennent, mais c'est un peu comme en musique, c'est-à-dire qu'il y a le grand solo et après il faut laisser la place à l'orchestre, mais le grand soliste est toujours là, quoi. Il peut revenir d'un instant à l'autre, donc et puis il y a aussi se promener dans les âges, dans les âges de la vie, c'est-à-dire de pouvoir être dans l'enfance, puis dans l'âge adulte, de pouvoir aller dans l'adolescence, parce que c'est aussi ça qui est génial dans une harmonie. C'est surtout dans une harmonie municipale, au sens où c'est pas comme un orchestre de conservatoire, où, par exemple, là, il va y avoir plutôt que la même tranche d'âge, avec des milieux socio-culturels à peu près équivalents, à part certaines exceptions. Dans une harmonie municipale, il y a de tout. Il y a tous les niveaux, il y a tous les âges, il y a tous les revenus, toutes les situations sociales. On peut être chômeur à l'harmonie, chirurgien à l'harmonie, jouer dans la même harmonie. Voilà, il n'y a pas de... Et puis le fait que l'âge n'est pas déterminant aussi, c'est-à-dire que on peut pas dire que parce que quelqu'un est plus âgé, il est plus sage ou plus avancé. Il y a beaucoup d'enfants qui en musique sont plus avancés que des adultes, ils apprennent beaucoup plus vite. Et quand les adultes se sont mis à la musique tardivement, bah, ils ont du mal.
Ils ont la peine.
Et parfois, c'est les enfants qui les aident à s'en sortir. Donc, ça, c'était aussi important pour moi d'aller, de me promener, pas seulement dans le temps présent, passé, ou plus que parfait, etc., mais aussi de me promener dans les âges, c'est-à-dire d'aller inspecter qu'est-ce qui se passe à l'adolescence, qu'est-ce qui se passe à l'âge, au milieu de la vie, quand on demande est-ce que je vais la refaire, ou est-ce que je l'arrête, ou est-ce que je persiste. Et pour ça, c'est vrai que la structure de l'harmonie municipale, c'était parfait, ça me guidait très bien.
Vous allez encore plus loin, parce que je pense à un autre personnage du livre, parce que là on a évoqué donc Matisse et Raoul, et puis bon, comme on l'a dit, il y a les différents duos, et puis vous vous amusez aussi à parler de personnages qui n'ont pas la parole mais dont on parle, et je pense à Jocelyne, parce que là aussi c'est un des refrains réguliers qui revient, Jocelyne, la dame si gentille de la garderie, voilà, dont tout le monde parle et qu'on ne voit pas quasiment. On va la voir, mais là c'est en creux.
C'est ce genre de personnage qui dans un village, tout le monde la connaît. On l'appelle la dame de la garderie. Et il n'y a que les enfants en fait qui connaissent son prénom, parce que les adultes ne prennent pas la peine de savoir comment elle s'appelle. Elle a une fonction. On pense pas qu'elle a un prénom, on pense pas qu'elle a une histoire, alors encore moins une vie privée. Oui. Il manquerait plus que ça. Et en fait, elle apparaît. au départ, elle est vraiment faite. Plus le livre avance, plus elle devient le personnage principal. Donc elle finit par émerger. On se demande même si le livre, c'est pas vers elle qui se dirige. Mmh. Si c'est pas finalement tout ça pour arriver à qui, pour arriver à savoir mais qui est la dame de la garderie.
C'est quoi son histoire?
Voilà, oui, tout à fait.
Oui, cette histoire qu'on découvrira un peu fantastique aussi. Là, on vous retrouve aussi, Agnès de Sartre, dans l'histoire de cette femme, de cette relation qu'on ne dévoilera pas. Mais là, il y a un petit côté assez fascinant. Mais de ces différents mouvements, c'est comme en musique, il faut aller vers un but. Et il va falloir trouver un personnage... qui est extérieur au moment où débute le livre, qui va revenir sur les lieux et qui est intéressant parce que à la fois elle connaît tous ces gens, elle en a, j'allais dire, écrit toutes les ficelles, toutes les relations, toutes les histoires, sans jamais vraiment en avoir fait partie, elle, et en même temps, c'est elle qui doit réunir l'ensemble. Mmh.
Ben elle a un peu, puisque on l'a dit, ça fonctionne beaucoup par duo, on va d'un duo à l'autre, et elle, on pourrait dire que le duo, il est formé entre elle et le reste du monde. Mmh. Mais c'est un peu la position qu'a un chef d'orchestre qui n'est pas, que les enfants pourraient appeler PNJ, personnage non joueur, mais c'est-à-dire qu'il ne joue pas d'un instrument, non. Mais il joue de l'orchestre. Mmh. Et ça, c'est très mystérieux de se dire que... et je pense que d'ailleurs, pas mal de personnes qui n'ont jamais fait de musique doivent se demander, mais c'est qui ce bonhomme ou c'est qui cette bonne femme qui ne sait rien faire? Il a rien dans les mains, il souffle pas, il bouge pas.
Et pourquoi il est là?
Pourquoi il est là? Il s'agite, et pourquoi on devrait lui obéir vu qu'on ne sait même pas si c'est joué d'un instrument? On pourrait se dire ça. Et en fait, le dialogue, c'est un dialogue très mystérieux, le dialogue qu'il y a entre un chef et son orchestre, parce que c'est à la fois un dialogue d'une personne avec plusieurs personnes, mais c'est aussi le dialogue d'une personne avec une entité, parce qu'au moment où le chef communique avec son orchestre, l'orchestre n'est plus qu'un seul organisme. C'est le chef qui fait que tous les individus se fondent en une seule... instance. Mmh. Et ça, c'est la magie de l'orchestre.
C'est l'harmonie.
Et ouais, c'est l'harmonie. Quand ça marche,
c'est magique.
C'est magique parce que ces moments-là, le chef a complètement l'impression d'avoir affaire à une matière sonore. Enfin, c'est plus dispersé. Et quand ça a lieu, c'est vraiment extraordinaire. Ça n'a pas lieu tout le temps, mais ça a lieu parfois. Et donc le dernier personnage qui intervient, on peut penser qu'elle est seule, mais elle n'est pas seule. Alors c'est toute sa problématique, parce qu'elle est à la fois extérieure, elle est, parfois se sent exclue, etc. Mais
elle reprend un peu les thèmes des différents duos en fait, en elle-même.
Et c'est elle qui nous permet de vraiment tout comprendre. Donc c'est aussi le rôle d'un chef. Qui fait que, oui, alors chacun a joué sa partition dans son coin, à la maison, a bien répété et tout, mais alors quand on met tout ça ensemble,
tout est relié.
Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un peu d'avance sur les musiciens pour qu'ils puissent fabriquer ce qui est vraiment le morceau. Et en fait, c'est le rôle qu'a ce dernier personnage qui, elle aussi, a une oreille incroyable, puisqu'elle a passé toute son enfance à écouter les gens que nous, on a vu vivre, et à comprendre ce qui se passait entre eux, alors que nous, en lisant leur histoire, on n'a pas tout compris. Donc, il y a cette on pourrait dire que l'oreille absolue, à ce moment-là, c'est plus seulement un thème musical,
mais
c'est aussi une façon d'être au monde qui est de prêter attention à ce qui se passe pour essayer de comprendre comment vivent les autres autour de nous et comment on va pouvoir vivre avec eux. Et comment se faire accepter, comment les accepter, comment... donc c'est là que ça... tout en restant dans la musique, on s'en écarte un petit peu.
Oui, et puis c'est un personnage particulier parce que... j'allais dire qu'elle fait un duo aussi, d'une certaine manière. Elle fait un duo avec un chat.
Oui.
Parce que tous les deux sont dans cette même dimension, en fait.
Alors, le chat, c'est le chat qui revient... alors, les chats, on dit on 9 vies. Alors, il y a ce chat qui s'est fait prendre au début du... Au début du récit, il a la patte prise dans un piège et il ronge sa patte pour se libérer. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien signifier de passer par cette douleur pour arriver, pour accéder à une forme de liberté aussi, parce que c'est ça qu'il recherche. Mais là encore, elle, ça va être la seule à le voir. Nous, on saura qu'il existe. Oui. Aucun des musiciens, aucun des personnages du roman n'aura vu le chat, mais elle, oui, elle aura vu le chat.
Et elle est dans « ça va aller » aussi.
Oui, c'est pas grave. C'est ça grave. qu'elle se dit toujours, c'est pas grave. C'est sa devise. C'est sa devise très dangereuse, en fait, qui est une devise de petite fille qui a survécu à pas mal à de choses peut-être pas mal et qui s'est adaptée en fait, qui a passé son temps d'enfance à s'adapter, c'est un peu ça son parcours,
c'est le moins qu'on puisse
donc,
dire
donc pour pouvoir s'adapter à toutes les situations de vie cette vie qui la brinque-ballée, elle se dit à chaque fois de manière assez docte, parce qu'elle est toute petite quand elle commence, c'est pas grave.
C'est de l'auto-persuasion.
Ouais, c'est ça. C'est pas grave si on a tout perdu, c'est pas grave si on...
Si on dort dans le fossé.
Si on dort dans le fossé, c'est pas grave si j'ai plus d'habits, c'est pas grave si... Voilà. Rien, absolument rien, ne doit être pris trop au tragique, parce que sinon, on s'arrête. Enfin, on dort dans le fossé, mais on y reste dans le fossé. Et elle a toujours... Elle a toujours eu ça comme devise, mais une devise, une sorte de devise obligatoire, quoi. Elle n'avait pas tellement de choix. Et puis elle va être confrontée à est-ce que ça, voilà, jusqu'où ça tient le coup, cette devise. Est-ce qu'on est prêt à aller regarder ce qu'il y a derrière, par exemple?
J'étais folle de croire au bonheur plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
Alors, il y a plein d'autres histoires. Il y a des histoires d'amitié qui se défont, des histoires d'amour qui se refont. Il y a plein de choses, Agnès de Sarthe, dans l'oreille absolue. Moi, je veux dire que vous m'avez fait pleurer à la fin. Et ça m'arrive pas souvent. Donc j'espère que nos auditeurs seront sensibles à ce livre. Je voulais savoir, au niveau justement de vous, votre travail d'écriture, comment vous en étiez sorti de cette oreille absolue ?
C'était pas tout à fait... C'était encore une façon différente de travailler, parce que vous dites à chaque fois les livres sont différents, mais là moi j'étais... Et à chaque fois qu'un livre arrive, je me dis oh là là, je suis pas capable de le faire. Et parce que là, je me disais, je suis pas capable de le faire parce que je voyais que ça allait être complexe, parce qu'il y avait les duos à assembler, et puis il fallait aussi que ça circule bien, que tout le monde soit personnage de l'histoire des autres. Et en fait, mon ambition, c'était de donner une forme de vie à ce qu'est un ensemble. Comment dire, oui, d'illustrer même le mot ensemble. Qu'est-ce que ça peut bien pour vouloir dire. Mais pour ça, il fallait que moi aussi je sois un peu chef d'orchestre. Et c'est vrai que j'ai pas tellement l'habitude d'être le chef, en tout cas dans mes livres. Et alors il fallait que je contrôle, il fallait que je dose, il fallait que je compte, il fallait que tout fonctionne correctement, que tel personnage qui était arrivé là, il pouvait pas intervenir à tel autre moment, tel personnage ne peut pas savoir que ça s'est passé puisqu'il n'était pas à tel endroit. Et là, je faisais un travail que, oui, d'habitude c'est les personnages qui prennent les rênes assez vite dans les livres que j'écris et je les laisse faire. Et là, non. Là, d'une certaine manière, ça m'a obligé d'être le chef d'orchestre.
Oui, et j'allais dire, même pour les personnages secondaires, il n'y en a aucun que vous laissez de côté. Je pense à l'infirmière Fatou, même elle, vous lui donnez un destin. Donc,
Oui, on la voit un moment et on pense qu'on va plus loin. Et puis en fait, on la revoit et puis elle se promène dans le livre, elle se promène dans le temps, elle est jeune, puis elle est plus âgée, elle monte en grade.
Elle est amoureuse.
Il lui arrive plein de choses, mais en fait, ça aussi, c'était une façon... De je sais pas comment dire, de retricoter un monde qui se détricote, quoi, ouais. De dire non mais
tout a du sens
tout, et puis il y a pas de petite intervention parce que, et ça c'est une leçon de la musique, il y a pas de petit instrument, il y a pas un instrument mineur, il y a pas au sens où, je veux dire, un coup de triangle peut tout changer. S'il est bien, c'est comme disait Isaac Babel, s'il décrivait son autobiographie, ce serait l'histoire d'une virgule. Une virgule peut tout changer, mais aussi deux notes de Célesta bien placées, ça peut. Donc il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas l'instrument roi et puis tous les autres qui comptent pas. Ça marche pas comme ça. Moi, j'ai toujours eu l'impression que dans la vie, c'était comme ça aussi. Il n'y a pas d'un côté les grandes choses et de l'autre côté les petites. Tout fonctionne ensemble.
C'est relié.
Et si on respecte ça, le fait qu'il ne devrait pas y avoir de hiérarchie...
Ça va mieux.
Ça devrait aller mieux.
Instrument petit, ça m'envoie à un personnage du livre qui n'est plus là parce qu'il est mort, mais dont vous parlez également, qui est le père de Matisse, bien sûr, avec son piccolo que sa femme ne supporte pas, donc il est obligé d'aller jouer dans sa voiture et il va se suicider. Et vous allez très très loin, c'est fractal en fait, c'est musical, mais c'est aussi fractal.
Lui aussi, on pense qu'il disparaît pendant une grande partie du livre.
Mais
Cédric, on pense juste qu'il est là parce que voilà, comme on a Matisse comme personnage saillant au début du livre, il est question de son père, mais après on n'en parle plus jamais. Mais si,
il revient.
En fait, il revient et il revient pas pour rien. Il a, il a, il a, il a, il a il a aussi sa partition à jouer, même mort, même ouais, c'est pas grave, ouais. Même au picot, c'est pas grave, il a quand même joué quelque chose.
Tout le monde compte. Ça s'appelle ouais. L'oreille absolue, c'est d'Agnès de Sarthe, c'est paru aux éditions de l'Olivier. Lisez-le, c'est remarquable. Et, ben, et alors maintenant, il y a quelque chose qui germe.
Oh ben oui, carrément. Ah ouais, il y a plusieurs. Ouais, ouais. Ouais, il y a un autre livre qui sort. Il y a un livre pour enfants qui sort à l'automne qui s'appelle Le Journal des Andouilles. Ah, je... Grande leçon de journalisme par quatre personnes de CE2. Et en janvier, il y a encore un autre roman qui sort. Et il y en a un nouveau en préparation. Donc,
vous n'arrêtez pas.
Ben non.
Tant mieux. Voilà. Eh bien, on aura la joie, j'espère, de se retrouver. Merci beaucoup, Agnès de Sarthe.
Merci, Alexandrine.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
C'est toujours Radio Libertaire, toujours 89,4 MHz, toujours idéaux et débats. Et c'était donc Agnès de Sarthe pour Une oreille absolue, parue aux éditions de l'Olivier. Et toujours à l'Olivier, on continue maintenant avec David Thomas pour Un frère. On le retrouve tout de suite. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz avec le grand plaisir de retrouver David Thomas. C'est toujours un plaisir. Et là, c'est pour un ouvrage un petit peu différent qui est paru aux éditions de l'Olivier et qui s'intitule Un frère. Alors, on l'avait un peu évoqué une fois où on s'était vu, il y avait des projets d'écriture. Mais moi, j'ai été très touchée par ce livre qui est un peu un objet littéraire non identifié, mais ça me plaît bien. Et j'ai été touchée par son écriture, par son contenu, par son sujet, et par toutes les émotions qu'il pouvait faire naître chez le lecteur. Moi, ça m'a vraiment ému. Alors, on va préciser qui est ce frère dont il est question, David Thomas. C'est le vôtre. Vous êtes le dernier de la fratrie parce que dans ce livre, pour la première fois, vous dites « je ».
Pour la première fois, je dis « je » et le « je » est moi.
Et vous, voilà.
Mais j'ai toujours écrit à la première personne. Mes romans ou mes nouvelles. Donc j'ai fait 7 recueils avec les invendus, ce que j'appelle s'ils ne sont pas publiés. J'ai dû en écrire 7 ou 800, si ce n'est pas plus. C'est toujours, toujours la première personne. Mais jamais j'ai écrit... je me suis pris moi-même comme sujet, comme point de vue. Donc là, oui, effectivement, c'est la première fois que ce jeu est moi-même.
Alors, comme vous le dites d'ailleurs dans le livre, vous étiez présent dans vos livres. Vous montriez un doigt, une patte, une oreille. Voilà.
C'est une image que j'utilise, mais je me cachais derrière mes personnages, en fait. J'avançais masqué. Je m'arrangeais toujours pour que... voilà, je ne puisse pas apparaître. Alors que c'était moi, mais pas vraiment moi. Enfin, pas toujours, parfois. Hein. Parfois, c'était très très loin de moi, pas du tout moi. Mais il pouvait m'arriver, effectivement, de raconter des choses que j'avais éprouvées et je m'arrangeais pour les mettre dans des situations que je n'avais pas vécues. Et donc, c'était moi, mais pas moi. Et là, ben, je ne pouvais pas faire ça. Là. Donc, sujet ne s'y prêtait pas.
Là, c'est vous, c'est votre famille, c'est l'histoire de ce frère malade, c'est l'histoire de sa mort, de sa maladie, de votre lien, de qu'est-ce qui a pu se jouer. Et c'est aussi la question de l'écriture. Et je dois dire que c'est une question extrêmement présente. Moi, ça m'a donné beaucoup à penser, ce chemin d'écriture que vous décrivez dans Un frère, donc ce livre paru aux éditions de l'Olivier, parce que à la fois, vous vous posez beaucoup de questions sur à quoi ça sert d'écrire, comment écrire, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut laisser tomber, parce que justement c'est ce jeu, dans une période où on est beaucoup dans l'autofiction, c'est un jeu qui pose question, et en même temps vous convoquez d'autres auteurs d'une certaine manière à la rescousse, dont Marguerite Duras bien sûr.
Ben, en fait, plus qu'une interrogation sur l'écriture en général, je m'interroge sur...
Ce récit.
Oui, non, mais sur moi. Plus que... En fait, le méta-livre, cette interrogation sur comment écrire cette histoire, elle avance avec l'écriture du livre. Moi, c'était la première fois que j'écrivais quelque chose d'aussi intime. Je n'avais jamais fait ça. Et c'est mon 10e livre. Et donc je m'interroge en écrivant mon livre, comment je vais écrire mon livre, et cette question elle est importante parce que c'est un livre particulier pour moi, c'est pas un roman, c'est pas une fiction, et c'est un sujet qui me touche vraiment très très profondément, puisque mon frère a été un personnage extrêmement important de ma vie, on peut dire capital, il a été le personnage le plus important jusqu'à la naissance de mon fils, donc et donc je me disais, mais comment je vais faire? Et je suis très sincère dans cette peur de ne pas y arriver. Le livre raconte comment il se fait aussi. Le livre, c'est pas simplement l'histoire du combat de mon frère contre la schizophrénie, la maladie, la mort. C'est pas simplement le lien que j'ai eu avec lui. C'est aussi comment écrire ça. Et moi, je savais pas. Je ne savais pas, j'ai pas l'expérience de Grégoire Bouillet ou de Christine Angot, vous savez.
Voyez, tout à fait.
Je me disais, mais là, tu sors de chez toi. Et donc, j'étais un peu fragile vis-à-vis de ça. Mais, et je me suis dit, mais j'avais envie de raconter aussi ça, parce que ça fait partie du livre. Je voulais pas que le livre se limite à raconter. La schizophrénie de mon frère, 40 ans de maladie, 40 ans de souffrance, et les belles années avant la maladie. Je trouvais que... Je sais pas, ça s'est fait presque tout seul. Tout seul.
Il y a un côté poupée russe, en fait. Parce que ce jeu qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un jeu multiple. C'est le jeu frère, c'est le jeu écrivain, c'est le jeu membre d'une famille, c'est le jeu confronté au système médical, c'est un ensemble de personnages, en fait. C'est toute la multiplicité qu'on a en nous.
Oui, voilà, c'est ça. C'est plutôt poupée russe, c'est ça. C'est que moi, je suis confronté à différentes questions, à différentes problématiques, et je ne savais pas comment les résoudre. C'est un peu un cliché ce que je veux dire, mais j'ai le sentiment que j'ai pas eu grande prise sur le livre. Moi j'ai eu de la prise sur la construction, la composition, mais sur le livre lui-même je suis pas certain d'avoir une grande prise, je crois pas. Ça s'est fait un peu, je veux dire, cette histoire de poète que je lis tout au long de l'écriture du livre, j'ai compris à la fin pourquoi j'avais lu ces poètes. Je ne me suis pas dit, ah bon, pour écrire ce livre, il faut que tu lises des poètes, et particulièrement des poètes russes. Ça s'est fait tout seul. Voilà.
Oui, ça s'est fait tout seul, et en même temps, ça devient un élément très très important, parce que vous êtes amené à dire de ce frère, vous l'avez évoqué, il est schizophrène, il a été schizophrène pendant 40 ans, on reviendra plus tard sur la notion de définition de maladie mentale, mais vous dites de lui, mon frère n'est pas un poète, c'était un poème. Et je trouve que cette expression, cette image est très très belle, et vous évoquez entre autres Rimbaud, qui effectivement parlait du dérèglement des sens de manière raisonnée, en disant, bah oui, mais là, il n'y a pas la raison. C'est pour ça que c'est un poème.
On dit souvent que les malades mentaux sont des poètes. Bon, mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est qu'un poète? Moi, j'ai compris ce que c'est qu'un poète en disant des grands poètes. En disant Rimbaud, en disant Michaud, en disant Brodsky, en disant Mandelstam, Akhmatova.
Ils sont tous là, d'ailleurs.
Ils sont tous là parce que c'est eux qui m'expliquent ce que c'est que la vraie poésie. Parce que le mot poésie, c'est un mot... On peut mettre tout et n'importe quoi dans le mot poésie. C'est un mot très casse-gueule. Dans l'art, ce qu'on appelle la poésie, il y a 80% de choses qui ne sont pas de la poésie, et puis il y a 20% de choses qui sont de la poésie. En fait, il n'y a que 20% des gens qui sont de vrais poètes. Mais ces vrais poètes, ça rejoint ce que disait, à mon sens, pour moi en tout cas, ça rejoint ce que disait Rimbaud. Le voyant, ces deux lettres de Rimbaud, la première, il parle d'être voyant, je travaille à être voyant, et ce cheminement dérèglement raisonné de tous les sens. Raisonné.
Oui, c'est là.
C'est
la différence.
Le poète, c'est ce qu'il fait. Et Brodsky explique ça très bien. Il dit ce qu'il y a de plus compliqué dans la poésie, c'est la composition du poème. C'est pas d'écrire des vers. C'est pas écrire un beau vers qu'on va mettre en incipit d'un livre ou je sais pas quoi. Enfin, on va citer dans les dîners. Non, c'est pas ça la poésie. C'est composer le poème. Et ça, le malade mental n'en est pas capable. Quand bien même aurait-il la même capacité à voir ce que le poète voit, la différence qu'il y a pour moi entre le malade mental et le poète, c'est que le poète est capable de retranscrire. Et c'est justement ce qui rend la maladie mentale affreuse. C'est cette incapacité à exprimer ce que le poète voit et ce monde dans lequel il est. Me semble-t-il. C'est un enfermement, c'est la maladie. On est enfermé. C'est pour ça que je parle de relégation comme sous l'ère soviétique. On était relégué, on était envoyé à l'autre bout du pays, enfermé. Vous êtes toujours là. Vous n'êtes pas en prison, mais en fait, vous êtes enfermé. Et il y a quelque chose comme ça dans la maladie mentale, j'ai trouvé.
From Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side, and the colored girls say, doot, 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 doot.
Sont des poètes, c'est de la connerie pour moi, c'est n'importe quoi.
Il faut arrêter cette mythologie.
Il faut arrêter cette mythologie, effectivement.
Et comme vous le dites, d'ailleurs, il faut aussi arrêter de décrire la maladie mentale comme quelque chose d'assez créatif et les lieux de soins comme des espèces de maisons de repos.
Oui.
Alors, c'est sûr que au début de sa maladie, c'était 40 ans. Cette maladie qui est une maladie chronique, hein, on doit porter ça toute sa vie, ça s'arrête jamais. Et les hôpitaux psychiatriques à l'époque, c'était juste pas possible.
À l'époque, ils n'étaient pas beaucoup très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. On a progressé. Bon, Sainte-Anne, c'est vrai que dans les premières années, c'était un peu rude parce que le cadre déjà. Bon, déjà, rien que le mot Sainte-Anne, vous savez, quand vous dites Sainte-Anne, vous savez, il y a effectivement, mon frère a été en début de ses années, dans sa vingtaine, il était souvent à Sainte-Anne et non pas dans d'autres établissements, même s'il est allé aussi ailleurs. Et oui, moi quand j'allais le voir, c'était très lourd, hein, c'était bon. Mais je ne souviens même plus de votre question, je ne sais plus ce que vous...
On parlait justement de cette idéalisation de la maladie mentale,
oui,
et des lieux de soins.
Mais c'est, je ne sais pas si vous faites référence à un article qui a été un peu le déclencheur de ce livre. Un jour, je tombe sur un article d'un écrivain critique qui dit sur Sylvia Plath.
Ah, le suicide de Sylvia Plath.
Le suicide de Sylvia Plath. Et il dit, cet article, il dit en substance, il dit tous les auteurs devraient aller faire un séjour en hôpital psychiatrique, ça leur ferait écrire des choses décalées, amusantes, en marge, parce que c'est ce qu'on attend de la littérature. Et quand j'ai lu ça, c'était peu de temps après la mort de mon frère, je me suis dit, putain, mais comment on peut dire un truc? Il faut être ou très très con, ou très très ignorant.
Ignorant.
On va être poli, on va dire très ignorant. On peut dire des âneries, hein. Tout le monde en dit des conneries, moi le premier. Donc il est très ignorant, il ne sait pas de quoi il parle. Il ne connaît pas ce monde-là, de toute évidence. Mais les hôpitaux psychiatriques ne sont pas... Vous savez, il y a ce film que j'évoque, c'est dans le livre, ce film de Broca qui s'appelle le Roi de cœur. Bon, cette idée de la folie qui est comme ça, quelque chose d'évanescent, d'un peu éthéré, un peu singulier, un peu presque amusant, presque sympathique. Mais on est à des kilomètres de la réalité. Mmh. La maladie mentale, c'est dégueulasse. C'est sombre, c'est noir.
Ça pue.
C'est affreux. Non, mais c'est pour ça. C'est ça que j'ai voulu montrer dans ce livre. J'ai voulu... Là, je me suis dit... Alors, s'il y a jamais un truc... Parce que moi, quand je démarre des livres, je sais pas où je vais. Hein, c'est vraiment... je suis comme un sorcier avec son bâton. Je suis complètement largué au début. Mais il y avait un truc dont j'étais certain que je voulais pas... C'était que je voulais montrer la réalité cache, dure de la maladie. Parce que c'est dur. C'est noir, c'est âpre, c'est violent. C'est ça la maladie mentale. Et ça oui, je voulais le montrer.
Et puis c'est incertain. Parce que comme vous l'évoquez, déjà établir un diagnostic, on ne fait pas une IRM pour savoir si on est schizophrène. Ça prend du temps. On arrive à dire, ah oui, là, il y a quelque chose de l'ordre de la psychose, mais bon, les étiquettes sont quand même assez floue parfois. La limite entre le normal et le pathologique peut surprendre au départ. Et puis, pour ce qui est des traitements, alors là...
Bon, alors, là deux choses. Là, effectivement, déterminer où commence et où finit la maladie mentale... Mais je pense que la psychiatrie a fait beaucoup de progrès et que maintenant, elle sait quand même... Moi, j'en ai parlé à des psychiatres, j'ai posé cette question. À partir de quand est-on considéré comme un malade mental? On m'a répondu à partir du moment où les troubles empêchent de vivre normalement.
Oui, envahissent.
Voilà. On peut avoir des troubles et continuer, bon an, mal an, à vivre, même si on souffre. Hein, attention, ça...
Il y a une grande souffrance.
Il y a une grande souffrance. Demorant. Demorant a souffert, le martyr pendant des années, mais cela ne l'a pas empêché de mener une vie, en tout cas professionnelle, il me semble qu'il a eu des enfants, vous voyez, à peu près. Le psychotique, il ne peut pas. Alors là, on est dans... Alors après, on va me dire que, que Demorant est aussi un malade mental. Mais comme vous voyez, il y a des degrés. Mon frère, il était psychotique. Donc, il ne pouvait pas vivre normalement.
Et il a quand même travaillé un temps.
Il a travaillé quelques temps, mais il a été assez... Ça a été à chaque fois des périodes courtes. Un an, deux ans. Le maximum, c'était 3 ans. Et c'était tout au début. Parce qu'en fait, pour ce qui est de mon frère, ça s'est aggravé avec les années. Mais je pense que ça s'est aggravé aussi parce que le cannabis y a été pour beaucoup. Mais et pour ce qui est des traitements... Bon, moi, je n'ai pas les compétences pour dire où en sont les traitements. Il me semble qu'on a quand même pas mal progressé en 40 ou 50 ans. Mais il me semble aussi qu'on, de toute évidence, on en est encore un peu à la préhistoire de la psychiatrie et du cerveau, en fait. On avance dans le bon sens. Mais je pense qu'il y a encore énormément à faire. Après, c'est pas, il ne faut pas me demander à moi parce que je n'ai pas les compétences... Je ne suis pas médecin. Donc...
Mais en tout cas, ce que vous évoquez, David Thomas, là, à l'instant, et qu'on retrouve dans Un frère, donc paru aux éditions de l'Olivier, c'est comment lui a réagi par rapport à sa maladie. Parce que vous évoquez le cannabis, il y a eu l'alcool, il y a eu ses consommations extrêmes, ses comportements extrêmes, et il ne fait pas partie de ces gens qui ont essayé de vivre avec leur maladie. Il a tout le temps lutté. Moi, elle était là, mais on a vraiment l'impression que...
Moi, j'ai ce sentiment-là, le concernant. Il était conscient qu'il était aliéné, psychotique. Il le disait lui-même. Il dit « je suis un aliéné ». Mais il ne faisait pas ce qu'il fallait pour apprivoiser. La maladie. Parce que boire comme il a bu ou fumer comme il a fumé, là, il y a presque un truc de « je vous emmerde, quoi. J'emmerde la maladie.
Oui. » C'était vraiment nique la maladie.
C'était une façon de dire qu'il voulait être plus fort qu'elle. Il sachant pertinemment qu'il ne serait jamais plus fort qu'elle. Et évidemment, plus il avait ces comportements-là et plus il aggravait la maladie. Parce que le cannabis, on le sait... C'est dévastateur. La cocaïne, cannabis pour les psychotiques, c'est dramatique. C'est pas, ça multiplie.
C'est souvent associé.
Ouais, malheureusement.
Et moi, ce que j'ai bien aimé également dans ce livre, c'est que vous en faites d'une certaine manière, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, vous en faites un personnage romanesque. Déjà par son amour de la musique, qui est extrêmement présente. C'est une espèce de fil rouge que vous déliez tout au long du livre. Vous évoquez les cours de musique qu'il donnait, vous évoquez la guitare dédicacée par Lou Reed, vous évoquez les morceaux qu'il vous fait découvrir. Et rien que ça, ça nous le rend extrêmement présent aussi, nous, en tant que lecteurs.
Bah oui... J'ai pas fait exprès.
Il y a ça, il y a le cheval, il y a beaucoup d'éléments.
Moi, je raconte ce qu'il était. Donc, j'ai pas fait exprès d'en faire un personnage romanesque. Si vous considérez, c'est peut-être une bonne chose, je ne sais pas dans quelle mesure. Moi, j'ai fait que d'essayer de l'incarner, quoi, de parler de choses qui l'incarnaient. Et ce qui nous incarne, c'est ce qu'on fait, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on. Voilà, ce qu'on. J'ai essayé de décrire quel personnage il était, avec ses forces et ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Enfin, voilà, j'ai essayé de.
Slow down! Slow down! Let me step on board. I just wanna ride your train one time before I go. You bout to sweetest little girl I believe I ever seen. And if I had you by my side, you would mean so much to me. Go ahead on, Walter. I've been a hobo, mind you, all of my life. Don't matter where I go, I'm never satisfied. Slow down, slow down. Let JB step on board. I just wanna ride your train one time before I go. I've been a stranger, I'm a stranger, and I will not be here long. If you just let me ride your train, I don't think it will not be no harm.
Mais ça va jusque dans les petits détails, et c'est ça qui, moi aussi, m'a émue. Et je prendrai l'exemple du fait que quand vous videz l'appartement, vous ne trouvez aucun sous-vêtement et que vous découvrez a posteriori encore quelque chose de nouveau, ouais. sur votre frère. Et le fait que, en fait, on ne connaît jamais totalement une personne, et il a beau être mort, vous apprenez encore des, ouais, choses nouvelles.
Ça, j'ai adoré ça.
Ouais, ouais, c'est,
j'ai adoré ça. Quand j'ai rangé l'appartement, vous me dites, avec mon autre frère, on fait comme tout le monde, on trie les vêtements, tout ça. Et puis je trouve pas de ni caleçon ni slip. J'ai dit, merde, c'est quand même incroyable. Je m'y reprends à deux ou trois fois, je vais regarder partout dans le sac de bain, j'ouvre tout dans la chambre, les placards, les tout, les tiroirs. Je me dis, c'est pas possible. Et après coup, j'appelle sa meilleure amie, et qui était franco-américaine. Et qui me dit, oui, je le savais. He went commando. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, le commando? Bah, to go commando, c'est ne pas porter ce vêtement. Et mon frère lui avait dit ça, il dit, ouais, I go commando, parce que c'est plus confortable, ça m'emmerde de porter des. Et j'ai trouvé ça formidable. J'ai adoré découvrir, comme vous le dites, quelque chose de lui après coup.
Ouais.
Parce que quand vous découvrez quelqu'un après coup, il est toujours encore un peu vivant, quoi. Ça le rend encore. On est surpris, quoi, et on aime être surpris, mmh, par quelqu'un qu'on aime. Ah, tu fais ça, c'est marrant. Ah ouais, d'accord. Vous voyez, mmh. Et ça m'a beaucoup plu, ça. Ouais.
Oui, non, mais c'est moi aussi, ça m'a ému, parce que ce qu'il faut préciser aussi, David Thomas, c'est que ce livre commence par la découverte de son corps. Il est mort, et vous parlez de la mort aussi comme on en parle rarement. C'est-à-dire que c'est pas ah, il est mort, mais vous parlez de la découverte d'un corps,
ouais,
qui est là, qui est par terre depuis plusieurs jours alors qu'il fait chaud, et il y a vraiment le masque de la mort qui est là.
Oui,
là,
c'est... Oui. Oui, ben je raconte ce que j'ai vu.
Ouais.
Et je ne vois pas pourquoi je me contenterais de dire que je l'ai découvert mort chez lui, puisqu'en fait, j'ai été. Bon, moi je suis comme tout le monde, ou pratiquement, on a tous vu des morts, hein, on a tous été à des mises en bière, on a tous. Voilà, mais quand on meurt à l'hôpital, on vous met dans le quart d'heure, une demi-heure après, vous êtes descendu au frais, comme on dit. Donc ça conserve les corps. Mon frère, il est resté chez lui plusieurs jours par 40 degrés. Donc évidemment, il se passe des choses que beaucoup plus rapidement que si vous allez à l'Institut Militaire Égal ou à la morgue. Et j'ai vu ça. Donc ça a été affreux pour moi parce que j'ai eu le sentiment que la mort était allongée sur lui. Et j'ai eu le sentiment que la mort me le prenait. Et en fait, pourquoi je raconte ça? Parce que j'ai perdu deux fois.
Oui.
J'ai perdu une première fois pendant 40 ans, une perte interminable où la maladie m'a pris mon frère. Et la deuxième fois, c'est la mort qui me prend mon frère. Et là, il y a eu quelque chose en moi qui a refusé, quoi. J'ai vu le corps de mon frère grimé par la mort. C'était insupportable. C'était d'une violence inouïe. Parce que c'est un peu la triple peine, si vous voulez. D'abord, vous perdez quelqu'un. On vous dit, voilà, vous apprenez qu'il est mort. C'est une première peine. La deuxième, c'est que vous le retrouvez. C'est vous qui est le premier à découvrir le corps. Et la troisième, dans cet état-là. Donc c'était un peu, pour moi... Et c'est pour ça que je parle de la mort, parce qu'il y a eu quelque chose en moi qui me disait mais je l'emmerde, quoi, je veux pas qu'elle... J'avais eu le sentiment qu'elle... Mais vraiment, j'ai vraiment eu ce sentiment, parce que j'ai attendu 50 minutes tout seul dans l'appartement avant que les flics arrivent, hein, et mon autre frère arrive. Donc je suis resté tout seul avec mon frère et la mort. J'avais le sentiment qu'on était trois, là. Mais mon frère, la mort et moi. Et c'est pour ça que je suis retourné me mettre près de lui, et que je lui ai parlé, et j'étais une façon de dire à la mort, mais je t'emmerde, tu ne me sépareras pas de mon frère. Bon, on fait ce qu'on peut. Je me suis inventé des trucs un peu à la con. Puis au bout de 20 minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu parles à un mort, tu parles tout seul. Enfin, vous voyez, c'était un peu absurde. Mais c'était une façon d'être...
De la repousser.
Tout comme le fait d'appeler les pompiers.
Ah oui.
Mon premier réflexe, c'est d'appeler les pompiers, ce qui est complètement ridicule. Je veux dire, vous voyez bien qu'il était mort. Moi, j'appelle les pompiers pour qu'on dise, venez me le réanimer. Et je me dis, mais monsieur, enfin, soyez raisonnable. C'est la police. Mais non, j'ai gueulé en disant, mais non, venez, je vous dis.
Et après, c'est le SAMU.
Après, c'était même, je passe le SAMU, puis ça. Écoutez, monsieur, non, mais.
On vous envoie la police, ouais.
Voilà, d'après votre description, il est mort, votre frère. Et vous voyez cette espèce de construction qu'on fait psychiquement pour se défendre. Pour se défendre.
Oui, et c'est normal de se défendre. Et ça vient aussi résonner avec le fait que vous n'aviez quasiment plus de lien avec lui. Parce que...
J'avais encore du lien, puisque lui téléphonais régulièrement. Mais la dernière année, la maladie l'avait tellement envahi.
Il était tellement chiant.
Oui, il était...
Délirant.
Il était dur, chiant. C'était dur. Il était tellement plus lui-même que ça m'était insupportable de le voir. Insupportable. Et je ne pouvais plus. Donc j'appelais toutes les semaines. On était en contact téléphonique. On n'était pas fâchés. Hein. Mais on ne se voyait plus. J'arrivais plus à le voir. Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
You know, I sure was in bad shape. The morning that little girl left me, called me an ape. I had to leave town. Lord, I walked to the river. Boy, then I said, I'm on the bank. Sit down on the bank. Yeah, you know my little girl done left me. What on earth gonna keep me from saying, thinking about my baby, what I mean. You know she won't come back. Begging with tears in my eyes this time. Baby, oh baby. baby. Oh, baby. Now, don't you hear me calling you? She'll be back one day sooner or later. I can't never tell. Someone else too. I ain't gonna play this long. I'm just gonna tell you about it right now. Ooh, Lord, someone else is too. You know, low down and dirty sometimes. Don't let the way that woman do.
Alors, Un frère, c'est donc paru aux éditions d'Olivier, c'est de David Thomas. Il y a beaucoup de choses dans ce livre sur justement toutes ces 40 ans d'évolution, ce que ça peut faire sur la dynamique familiale, sur les parents, sur les frères, sur la fratrie. Mais il y a un point qui aussi m'a beaucoup touché, c'est la question du désir. Que la maladie rend impossible tout désir. Je pense au fait que il a eu des histoires d'amour, mais qu'arrivé à un moment, c'était plus possible. La maladie était présente, les années passaient, et malgré les désirs qu'il pouvait avoir, il y avait quelque chose qui était impossible. Il vous a vu avoir un fils, et là aussi, même s'il avait eu le désir d'avoir des enfants, et c'est ça qui moi, m'a frappée en termes de souffrance. C'est comment elle a pu, cette maladie mentale, réduire à néant tout élan vital, toute envie de vivre.
En fait, la maladie mentale, justement, n'a pas du tout réduit en élan l'élan vital de mon frère.
C'est la possibilité. Oui.
Je vais être plus précis. C'est exactement l'inverse qui se passait. Mon frère... plus vous vieillissez, plus vous êtes handicapé par quelque chose, plus la vie avance, et plus il faut se composer, il faut s'adapter. Vous ne pouviez pas avoir les mêmes prétentions amoureuses quand vous êtes brillant, beau, que vous avez 25 ans, que quand vous êtes schizophrène, dépendant, et vous avez 50, et que... vous avez perdu vos cheveux, vous avez pris 40 kilos.
Vous êtes à la hache.
Vous êtes à la hache, etc., etc. Donc ça ne veut pas dire que mon frère n'était pas dans la capacité de vivre une histoire d'amour. C'est que mon frère refusait de composer. C'est que mon frère, il avait ses schémas, ses désirs étaient les mêmes que ceux qu'il avait à 25 ans. Et quand on lui disait, ses médecins lui disaient, mais enfin écoutez, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un. Et moi-même, je disais...
Les sites de rencontres, oui.
Là, sur des sites de rencontres, il me regardait, il me disait, mais tu délires ou quoi? Mais je ne fais pas ces trucs-là, quoi. Et c'est ça, le truc. Parce que moi, j'en connais des malades mentaux qui ont des vies à peu près stables. Enfin, ils ont rencontré quelqu'un. Et bon, c'est peut-être un peu plus compliqué que les autres, mais voilà, ils sont en couple, tout ça. La maladie mentale n'exclut pas. Mais mon frère... vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que fuck la maladie mentale.
Oui, tout à fait. Oui.
La maladie mentale te dit, il va falloir que tu revoies tes critères. Maintenant, faut te, c'est... Voilà, oui, t'as 50 ans, 55 ans, regardez les femmes de 30 ans, tout ça, c'est fini, ça. Et lui disait non. Alors disant non, évidemment... il s'interdisait de vivre des histoires. Mais c'était une façon, à mon avis, c'est moi comme ça que je l'explique. Vous savez, tout ce que je raconte, peut-être complètement inventé de ma part. C'est le roman que je me fais. Moi, je l'explique comme ça, mais lui, il aurait peut-être expliqué autrement. Mes parents auraient peut-être une autre explication. Mon autre frère aussi. Bon, moi, je l'explique comme ça. Mais je pense que Edouard, il ne voulait pas céder, quoi. Il avait eu des femmes magnifiques dans sa vie et dans ses bras. Et il était hors de question de revoir ses désirs, ses exigences. C'est tout ou rien. Il était très entier, hein.
Oui.
Il avait ce côté de tout ou rien, hein. Il faisait pas les choses à moitié. Alors évidemment, ça aussi, ça non plus. Enfin, pas comment dire.
Ça s'appelle Un frère. C'est de David Thomas. C'est paru aux éditions L'Olivier. C'est à découvrir parce qu'il y a tellement de choses que il faut le ressentir, ce livre. Vous parlez de la fin du livre et on ne va pas dévoiler non plus ce que ce chemin d'écriture a pu.
On peut dire que c'est en gros. Hein,
oui.
Le livre est un livre à rebours. Mm. Je pars comme vous le disiez tout à l'heure de sa mort et puis je remonte. Je remonte aux années heureuses et aux années parce que c'est aussi un livre, surtout un livre sur le lien. C'est un livre sur mon frère, mais c'est aussi beaucoup. Hein. C'est pour ça que le titre est Un frère, parce que le frère, ça peut aussi être moi. C'est aussi un livre sur le lien, moi, que j'ai eu avec lui. Et donc, l'importance qu'il a eue dans mes premières années.
Qu'est-ce que j'ai fait pour toi ? La question qu'il pose.
Il pose, et je lui réponds, ouais. Tu n'as pas idée.
Ouais.
Il a été une importance capitale. Donc, le livre est très noir au début, et il est lumineux à la fin, parce qu'il a été très, très, très lumineux pour moi. Donc voilà la construction globalement après ça.
Oui, on a oublié de préciser aussi qu'il était votre aîné et que vous étiez le cadet,
oui.
ce qui est très très important justement dans ces moments.
Quand on est enfant ou adolescent, l'aîné c'est toujours voilà.
C'est la référence.
Il y a ce regard en contre-plongée. C'est toujours mieux.
Et puis il était toujours là pour vous.
Il a été d'une extraordinaire générosité avec moi. Il a été très, très, très généreux. Comme au grand frère, vous voyez. Il m'a tout donné. Tout. Donné tout ce qu'il avait. Tout. J'ai compris ça après coup. J'ai dit, mais il me donnait tout. Et quand je suis parti un jour, j'avais 21 ans ou 22 ans. Je venais me faire réformer du service militaire dans des trucs, enfin, T4, machin. J'avais arrêté mes études pour emmerder mes parents 3 mois plus tôt. Enfin, j'étais complètement à la ramasse, quoi. Et je dis, je me casse à Barcelone. Et comme je travaillais, mais j'avais 3 francs 6 sous, je sais pas, j'avais 2500 francs d'économie. Si vous voulez, vous partez avec 2500 francs d'économie à 20 ans à Barcelone, vous tenez pas longtemps.
Non.
Et il m'a dit, ben écoute-moi, il travaillait, mais je te file 3000 balles, tu me rembourseras quand tu voudras. Voilà. Vous voyez, il a appelé un de ses copains qui m'a un peu chaperonné là-bas. Enfin, il était très. Était hyper généreux avec moi. Hyper généreux. Donc, voilà, le livre finit sur cette lumière qu'il a été pour moi.
Lisez Un frère de David Thomas, c'est par aux éditions de L'Olivier. Ce livre existe, il est là. Et maintenant, vous, par rapport à l'écriture, qu'est-ce qu'il a changé dans votre manière de voir les choses ? Est-ce que quelque chose est différent ?
J'en sais rien. Je vais être franc avec vous, là, je ne sais pas. Trop tôt, je pense. Il y a des désirs, mais je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là, les textes courts, j'en ai un petit peu marre, parce que peut-être que j'en ai trop fait. Mais ça ne m'abandonnera pas. Je pense que tôt ou tard, j'y reviendrai. Et le prochain, je ne sais pas. C'est bien connu.
À suivre.
Voilà, à suivre.
Merci beaucoup.
Merci à vous, merci.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Et voilà, ça c'est fait, la première, c'est terminé. On arrive donc à la fin de cette émission. Mais c'était la première d'une longue série, on se retrouvera dans 2 semaines. Il y a plein de bouts de livres en cette rentrée et on aura l'occasion de discuter avec Sorge Chalandon et avec d'autres auteurs qu'on aime bien. Restez à l'écoute de Radio Libertaire et d'ici là, portez-vous bien.
«
de prophète. Je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Pas vrai, maître?
Alors, je fume, je bois et j'écris. Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une sorte de cerveau disponible de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.